Et tout de suite, c'est l'invité culture. Notre premier invité ce matin, à l'art du partage. Ça tombe bien, c'est le thème des journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end. Il se dit artiste plasticien et apiculteur urbain. En d'autres termes, l'homme installe des ruches et récolte l'énergie qui s'en dégage en même temps que l'or jaune. En parallèle, il regorge d'idées qu'il met en œuvre, persuadé que l'énergie mise en commun peut être une force motrice inouïe. En résidence cette année avec son collectif d'artistes du Parti Poétique, au Familistère de Guise, dans l'Aisne, le palais social inventé par Gaudin au XIXe siècle, il a choisi d'intituler son projet Lapistère et s'apprête à y proposer une performance artistique, sonore et gustative. Ça sera demain dans le cadre de ces journées du patrimoine. Bonjour Olivier Darnay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes artiste plasticien et apiculteur urbain avec une formation de graphiste. À quel moment les abeilles sont-elles entrées dans votre vie d'artiste ?
Dès lors que j'ai commencé à intervenir dans l'espace public, je me suis rendu compte que travailler avec un animal et un témoin de 80 millions d'années, c'était drôlement intéressant pour questionner le paysage urbain qui est devenu un paysage humain finalement. Et ça a commencé, oui, avec en fait une série de questions. Et puis, n'étant pas arrivé immédiatement aux réponses, en fait, c'est un enchaînement de questions qui s'est appelé plus tard la pollinisation de la ville, c'est-à-dire comment poser à la fois des abeilles et des questions dans l'espace public.
Rien à voir avec un goût particulier pour le miel ou un amour particulier pour les petites bêtes.
Un amour particulier pour les petites bêtes, plus que pour le miel, parce que je suis un petit mangeur de miel, donc c'est pas une gourmandise que j'ai par ailleurs qui m'a encouragé vers elle, c'est plutôt le trouble de l'organisation sociale de la ruche, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai découvert très rapidement que c'était un espace politique qui m'interrogeait sur la façon même que j'avais d'imaginer la ville, d'y prendre part, d'y participer, de la lire, de la comprendre, d'y intervenir. Et donc, il y avait sans que la ruche soit la ville. En tout cas, elle l'enseigne et elle renseigne la ville. C'est ça ce qui m'a intéressé au tout début de cette expérience.
C'est surprenant parce que quand on pense à apiculture, on ne pense pas tout de suite nécessairement à la ville. On sait maintenant qu'effectivement, il y a des ruches installées en ville. D'ailleurs, il y en a sur le toit de cette maison ronde, de la maison de la radio. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de votre travail avec les abeilles ? Parfois, vous posez des abeilles, des installations et des questions d'ailleurs sur les trottoirs des villes. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que la pollinisation m'intéresse bien plus que la valeur du miel. Et d'ailleurs, on se rend bien compte d'ailleurs que la valeur de la pollinisation est plus importante que la valeur du miel. Ce qui m'a intéressé et interrogé, c'était bien plus la relation, finalement, que l'on établissait avec à la fois cet animal et la façon qu'il avait d'inviter et de convoquer les histoires et la géographie. Ce qui, lorsqu'on parle d'abeilles, y compris en ville, puisque une ruche, c'est à peu près 80 000 abeilles dans une seule ruche. Donc lorsqu'au Parti Poétique, on crée les conditions d'un centre d'essaimage qui finalement accueille aujourd'hui 120 ruches, donc ce qui fait de moi un apiculteur sans que j'ai voulu l'être finalement. On se retrouve potentiellement avec 9 millions d'abeilles en plein centre-ville.
Ah oui.
Donc ça veut dire que la réaction première est celle d'une peur potentielle, mais le résultat de cette peur potentielle, c'est le résultat de la méconnaissance du sujet, comme souvent d'ailleurs. Donc on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, et ce qui est très joli en fait, et une des expériences qu'on avait fait au Centre Pompidou, qui a été un peu une étape dans le processus, ça a été pas seulement de poser une ruche sur un trottoir, et comment un préfet de police pouvait à un moment ne pas faire autrement que de m'autoriser à poser une ruche sur un trottoir, qui était le travail que j'avais fait au tout début du Parti Poétique dans le cadre d'un projet qui s'appelait « L'erreur est urbaine ». Devant le Palais Royal à la Comédie Française sur la place Colette. Mais ensuite au Centre Pompidou, l'idée c'était pas seulement de poser une ruche sur un trottoir, c'était de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on enferme des humains dans une ruche. Comment est-ce que l'on vit cette expérience où au début cette peur nous envahit, et comment cette peur se transforme progressivement en curiosité, et comment sans être dans une tenue d'apiculteur, sans être séparé des abeilles par une vitre, à quelques dizaines de centimètres de 80 000 abeilles, comment on redécouvre le spectacle de la nature. Voilà, et ça a été une expérience passionnante, parce que d'une certaine façon, le discours de l'artiste, les mots n'ont pas besoin d'être là, hein. C'est cette confrontation qui fait qu'à un moment, comme on est aujourd'hui les urbains dans une culture hors sol, redécouvrir le spectacle de la nature en étant enfermé dans une chambre de pollinisation, c'est quelque chose qui a du sens, mais qui a du sens au-delà des mots, c'est-à-dire que au-delà même des imaginaires. Ce qu'il faut être, c'est confronté à la magie de l'émerveillement. Et lorsqu'on est un apiculteur, on vit dans cet émerveillement, parce que d'une certaine façon, les abeilles nous dépassent. C'est-à-dire qu'on a beau savoir des choses, on a beau avoir pratiqué des choses, on a beau avoir lu sur les abeilles, il y a un moment où on n'a plus besoin de mots, et les mots ne sont pas suffisants pour témoigner de cette relation. Parce qu'en fait, d'une certaine façon, on commence par une ruche, et bien on termine par une relation à l'animal, en fait.
En 2000, Olivier Darnay, sur le toit de la mairie de Saint-Denis, vous avez installé un rucher expérimental que vous avez intitulé Laboratoire urbain à ciel ouvert. Et c'est devenu le principal, le plus important rucher urbain d'Europe, avec, vous le disiez, 120 ruches, 7 millions d'abeilles, 9 millions aujourd'hui, disiez-vous. Vous y produisez, peut-être encore, le miel béton. C'est ça votre projet, le miel béton, c'est la rencontre de la ville et de la nature à travers les abeilles.
C'était au tout début en tout cas une expérience. Et puis c'est devenu une sorte d'appellation d'origine contrôlée du territoire. C'est-à-dire que c'était intéressant pour les habitants de Seine-Saint-Denis, de banlieue, de à la fois de goûter leur paysage, mais aussi de le manger et d'une certaine façon d'en être fier, parce que lorsqu'on avait gagné dans cette expérience artistique qui était le miel béton, lorsqu'on a gagné des médailles d'or au concours régional agricole, il y avait une certaine fierté finalement à dire que la banlieue c'est aussi ça. Et lorsqu'ensuite une expertise scientifique s'est adossée à ce concours agricole, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 250 pollens différents dans un seul échantillon de miel, dans un écosystème humain, avant d'être urbain, qui a priori n'est pas une terre de miel. Lorsqu'on traverse la Seine-Saint-Denis ou Paris, on n'a pas le sentiment d'être sur une terre de miel. Donc le paradoxe troublant d'abord a été de réussir à faire du miel dans ces endroits-là, et puis et ensuite d'en faire en plus en quantité. C'est-à-dire que et en ça, c'est un message politique. C'est-à-dire que les abeilles réussissent à faire en ville aujourd'hui entre 4 et 5 fois plus de miel que dans la majorité des régions rurales de France. Pour autant, c'est pas une bonne nouvelle. Ce qu'elles indiquent en faisant ça, c'est le drame de notre agriculture qui n'a rien de conventionnel, mais qui est véritablement chimique et industrielle, et qui fait que les anciennes terres de miel de nos grands-parents ne le sont plus. Donc on avance sur quelque chose qui, en ville, nous montre le drame de notre façon d'aménager le territoire, de penser notre agriculture, de penser notre alimentation.
Projet politique, mais projet économique aussi, puisque vous avez encore, je ne sais pas où ça en est, vous allez nous le dire, un projet de banque du miel et de banque de rennes, Olivier Darnay.
En fait, d'une certaine façon, l'abeille est à la croisée de deux crises, une crise économique et une crise écologique. Elles sont malades de l'homme, elles en meurent, et on peut du coup, on peut pas considérer que nos existences urbaines ne dépendent pas à un moment d'une façon de penser, je viens de le dire, notre agriculture, la façon que l'on a eu de donner une délégation à ceux qui nous nourrissent, voilà, et qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Très souvent, on fait confiance à de l'inconnu. Donc, cette banque du miel a été de savoir comment du coup, puisque dans le mot butinage, il y a le mot butin, comment est-ce qu'un collectif artistique, en l'occurrence le Parti Poétique, serait en mesure d'organiser un partage de butin, mais qui serait aussi un partage d'expertise et d'expérience. Ça veut dire qu'en gros, cette banque du miel, elle est née évidemment après un drame qui était 2008, ça fait 10 ans.
Jour pour jour, si on considère que cela a commencé avec la faillite de la banque Lehman Brothers.
Un drame et une révélation finalement, d'une économie réelle et d'une autre économie. On découvre à un moment qu'il y a ceux qui sont dans la véritable économie et les autres. Et de quoi les abeilles meurent-elles, elles, finalement? Donc, on a voulu démarrer cette expérience-là à la fois à Grenoble et aussi surtout dans l'espace public de Genève. Installer la banque du miel à Genève, alors bien que Genève n'ait pas besoin d'une banque supplémentaire, a été en gros le fait de voir que si finalement l'agriculture du coup moderne, mais qui ne l'est pas, finalement produit de la rentabilité à travers un tableau Excel et donc en produisant de la richesse jusqu'à finalement en faire l'objectif premier, ça veut dire qu'en gros cette courbe de rentabilité ascendante, elle a une autre courbe parallèle qui est celle de la mortalité des abeilles. C'est-à-dire que plus on cherche à produire de la rentabilité sur cette agriculture, plus on produit de la mort. Donc si l'argent produit de la mort, est-ce qu'un projet artistique est en mesure de faire l'inverse, c'est-à-dire de transformer de l'argent mort en abeilles vivantes? Comment est-ce qu'on réalise ce nouvel écosystème où à un moment on prendrait de l'argent mort d'humain, en l'occurrence voilà, l'argent que l'on a des fois dans nos poches, et on réussirait à construire un écosystème inverse où on produirait avec cet argent mort des colonies d'abeilles qui aujourd'hui meurent de l'homme et de la vie.
Comment les apiculteurs, qui ne sont pas tous des artistes, Olivier Darnay, voit-il ces différents projets, ces projets d'installation, ces projets de performance, ces projets de banque du miel et autres zones sensibles à Saint-Denis? On va y venir.
Au tout début, lorsque quelques syndicats m'ont invité à prendre la parole dans des congrès, c'était amusant parce que dans les assistances, les sourcils se fronçaient avec une intrigue sur qui c'est celui-là, est-ce qu'il sait de quoi il parle et est-ce qu'il profite pas comme d'autres d'ailleurs de l'abeille à l'utiliser comme un support de communication, parce qu'aujourd'hui véritablement on peut considérer comme, lorsqu'on voit effectivement,
oui, ou comme un prétexte, ça, comme un médium, comme un prétexte, bon,
exactement. Et donc il y a eu une sorte d'intrigue, et puis comme tous les éleveurs, à un moment ils se sont rapprochés de moi, ils m'ont posé des questions techniques. C'est-à-dire qu'en gros, comment tu élèves tes abeilles et comment tu fais et au printemps, etc. Et j'étais véritablement suffisamment passionné par cette histoire-là pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Et ils se sont dit, mais en fait, t'es apiculteur. Oui, je suis apiculteur, de fait, bien sûr. Et de là, ensuite, ce qu'ils ont découvert, c'est que nous, notre projet artistique se développe avec quelque chose qui est une relation avec le réel de la ville, le réel aussi de la vie de ces apiculteurs. Et le réel de ces apiculteurs-là, aujourd'hui, c'est un drame. C'est-à-dire que rien n'est plus silencieux qu'une ruche qui meurt au fond d'une forêt. C'est-à-dire que ce qu'on arrive à faire avec ce projet-là, c'est aussi mettre en écho et amplifier le drame de ce que vivent les apiculteurs lorsqu'ils rencontrent la mort. Et cette mort, ils la rencontrent régulièrement dans leur ruche, parce que les écosystèmes sont en train de mourir. À Guise, donc dans l'Aisne...
Ah pardon, j'ai dit Guise, mais c'est Guise.
Oui, c'est ça, mais c'est rien. C'est toujours là-bas. À Guise, donc dans l'Aisne, lorsqu'on travaille du coup dans le cadre de cette résidence avec l'association des apiculteurs de l'Aisne, et que l'on prend à la fois connaissance du bon état de santé des apiculteurs et aussi de leurs abeilles, on rencontre des apiculteurs qui nous parlent de 95% de pertes dans leur cheptel. Donc, si ces apiculteurs étaient des éleveurs bovins, 95% de morts dans un champ de 100 vaches, c'est beaucoup plus spectaculaire que 95 ruches qui meurent au bout d'un champ.
Il y a un lien très net, une relation directe, Olivier Darnay, entre l'esprit de ruche qui se dégage pour vous de ces abeilles, de cette organisation sociale hein, de la ruche, et le familistère de Guise.
Ben... Ce qui est formidable en étant invité au Familistère, d'abord, c'est que c'est le résultat de 10 ans de dialogue presque régulier avec Frédéric Pagny, conservateur, avec cette idée un jour de faire pourquoi pas une résidence. En 2017, on s'est rendu compte que c'était peut-être le meilleur moment. Et on a la chance, lorsqu'on découvre à la fois le lieu du Familistère, ce palais social et la pensée de Godin, de mettre les pieds dans une utopie concrète qui a été réalisée, qui est un espace politique pensé par un homme qui avait d'ailleurs... la ruche comme emblème, hein, mais qui n'avait pour autant jamais invité des abeilles vivantes dans son familistère. Il avait pensé à plein de choses sur le confort et la nouvelle condition, on va dire à la fois ouvrière et humaniste des personnes qui permettaient de développer son activité industrielle.
De poil, hein.
De poil. Poil Godin, oui, le fameux poil Godin. Et donc comment, du coup, une activité industrielle produit à la fois des richesses, mais considère qu'on ne rétribue pas seulement le travail par de l'argent, il considère qu'on doit rétribuer à la fois le capital, le travail et le talent. Et je trouve que ces trois intitulés-là, c'est une parfaite définition du miel.
Demain, vous allez donc proposer une performance artistique, sonore et gustative que vous avez intitulée « Récolter le ciel ». Sans dévoiler l'ensemble des choses, il faut garder évidemment la part d'improvisation de cette performance et de surprise. Est-ce que vous pouvez nous en dévoiler quelques idées?
C'est le résultat d'une rencontre avec un ours qui s'appelle Didier Petit et qui est violoncelliste de son état, performeur et improvisateur. On a eu l'occasion de travailler ensemble il y a 10 ans maintenant aux Pays-Bas dans le cadre d'une performance qui ressemblait à peu près à celle-là. Puis ensuite sur le toit de la Cité Radieuse et puis à Londres. Et puis pendant 8 ans, on n'a pas eu l'occasion de refaire cette performance. En fait, il s'agit là de récolter ce miel comme si il s'agissait du premier miel ou du dernier miel de l'humanité. En gros, avant d'extraire le miel par des machines, comme on le fait aujourd'hui de façon moderne, on était cueilleur de miel avant d'être éleveur d'abeilles. Et une fois qu'on avait donc cueilli ce miel, on le mettait dans un linge et on le pressait, comme on pressait finalement du raisin dans un linge aussi. Et on l'accrochait à une soupente, à une poutre au-dessus de nos têtes. Et puis dans ce linge, on malaxait ce miel jusqu'à ce qu'il coule dans un récipient. Voilà la façon qu'on avait du coup de récolter le miel qui finalement, lorsqu'on accroche une corde dans la cour centrale du familistère de Guise, revient à récolter le ciel de Guise. C'est-à-dire que on va découvrir demain le goût de Guise, puisqu'il n'a jamais été posé d'abeilles a priori dans ce familistère, et on va le faire dans une performance qui est à la fois inquiétante et bienveillante, une sorte d'improvisation pour l'essence et puis hospitalière en ce sens où ce miel ne nous appartient pas, il appartient à la collectivité, donc il ne s'agit pas d'en faire un produit qui serait ensuite vendu, c'est quelque chose qui relève bien plus du bien commun.
Thank you.
Voilà un extrait de ce qu'on peut entendre de ce compositeur et violoncelliste qui va vous accompagner, Olivier Darnay, demain, Didier Petit. Comment avez-vous travaillé avec lui après cette rencontre avec l'ours, disiez-vous? L'ours aimant les abeilles, en plus la nature est bien faite et la boucle est bouclée. Mais comment avez-vous travaillé avec la musique? À quel moment la musique arrive-t-elle dans votre travail? Et à quel moment la corde qui est installée au Familistère de Guise rejoint le violoncelle puis la ruche?
C'est vrai qu'on rajoute une corde finalement. On est presque dans une relation animale avec Didier Petit, en ce sens où on n'a presque pas besoin de travailler. C'est très, très étonnant, c'est-à-dire qu'on est dans une relation assez intuitive pour d'abord s'écouter et partir en aventure ensemble. Ça veut dire qu'en gros, et puis d'ailleurs c'est certainement aussi le fait qu'il soit expert sur ces questions d'improvisation, on s'embarque. C'est-à-dire qu'on a le sentiment de pouvoir aller sur ce chemin-là, qui va s'inventer au fur et à mesure où l'on avance. On n'a pas eu d'effort à faire sur la façon d'imaginer quelque chose qui serait un accord, une rencontre entre le miel, un violoncelle et puis des humains avec lesquels effectivement on va partager quelque chose. Et il en est de même finalement, et c'est très troublant, je disais ça au Familistère la semaine dernière en faisant les trois installations nouvelles qu'on va présenter demain au public au sein du Familistère, c'est que c'est étonnant de voir comment cette résidence qui s'installe sur un temps long, on n'est pas du tout sur deux ans même.
Ah, deux ans.
On n'est pas sur un calendrier culturel, c'est ce qu'a compris le conservateur, on est sur un calendrier biologique, ça veut dire qu'il faut que les choses s'installent. Parce qu'on travaille avec un animal, et puis on travaille aussi avec un public, et on travaille avec des questions qui ne cherchent pas à faire du spectacle. Et l'exposition est rien d'autre qu'un temps d'étape dans un processus de recherche. Et ben, il en est de même au Familistère, comme avec Didier Petit, c'est qu'on est dans un embarquement, voilà, et dans une relation qui, en plus, n'est pas uniquement entre nous, qui n'est pas une exclusivité entre artistes et auteurs, qui contribue à quelque chose qu'on aimerait être évidemment public et commun.
On a compris, Olivier Darnay, que la performance était artistique, on a compris que la performance était sonore. Elle est également gustative. À quel moment est-elle gustative ?
Parce qu'à un moment, on met les mains dedans et on met aussi la langue dedans. C'est-à-dire, pas nous, hein, j'entends, le public. C'est-à-dire que le miel...
Je rappelle que le thème des journées du patrimoine cette année, c'est l'art du partage. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient le partage. De toute façon, vous partagez aussi cette expérience.
Oui, on partage une expérience parce que elle a quelque chose de performatif, parce que c'est une expérience plus qu'un spectacle. Moi, j'ai pas du tout le sentiment dans mon travail de faire un spectacle. Je ne suis pas dans les arts de la rue, même si j'interviens dans l'espace public, et je ne fais pas quelque chose que je sais déjà faire. Ça veut dire que lorsque je réalise quelque chose, je n'essaye pas de le faire tourner ou de le reproduire. Je considère que si ça a été fait, il s'agit donc du coup de passer à autre chose. C'est ce qui fait d'abord peut-être que je ne m'ennuie pas, mais que le parti poétique, c'est pas seulement comment répondre à une question, c'est comment les questions s'enchaînent depuis maintenant 20 ans.
Et là, depuis presque 20 minutes, et on n'a pas encore fini, Olivier Darnay. Donc à quel moment mettons le public, la langue ?
À la fin. C'est-à-dire que le moment, l'accord final, qui est presque parfait, c'est le moment où finalement le miel n'est rien d'autre que la concentration des mondes. C'est-à-dire que c'est à la fois les histoires du territoire, mais aussi la géographie. Donc ce miel concentre 3000 hectares de territoire autour de Guise, mais c'est aussi le miel, une symbiose entre le monde animal et le monde végétal. Donc c'est à la fin de cette performance qu'ensuite on goûtera Guise et qu'on pourra même le manger.
J'espère bien que nous allons goûter un peu, mais je ne vois pas de pot de miel posé sur la table. Si vous l'avez apporté, ça sera pour tout à l'heure, si on n'est pas encore à la fin. On retrouve notre invité, artiste et apiculteur urbain, Olivier Darnay, fondateur du Parti Poétique. Vous avez dit ce mot plusieurs fois dans la première partie de cet entretien, Olivier Darnay, le Parti Poétique. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce qu'est cette idée de Parti Poétique ? On entend bien la dimension d'engagement, d'activisme peut-être, politique de votre démarche, mais pourquoi un Parti Poétique ?
Presque plus d'artivisme. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai considéré rapidement que dans la générosité de ce que je découvrais dans la ruche et dans l'universel de la ruche, il y avait trop de choses pour moi. C'est-à-dire que pour moi tout seul, j'entends. Et pour moi comme artiste dans la solitude de mon atelier. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une intuition, c'est qu'il y avait suffisamment à partager pour être plusieurs, pour accompagner ce combat, cette cause, cet engagement. Donc l'idée de collectif était peut-être bien plus aussi à l'échelle de ce qu'est la ruche. Donc le parti pris a été de se dire est-ce que j'arrive à mettre en place les conditions de quelque chose qui serait un ouvrage collectif, qui serait une agglomération de curiosité et de talent sur le fait de travailler sur pour moi, ce qui me concernait, un lien entre art et environnement, mais de voir comment accompagner d'abeilles, on était en mesure de croiser une expertise urbaine, de croiser une expertise scientifique, de voir en gros comment ces abeilles rajoutaient une expertise à la façon qu'on avait de croire savoir la ville, de croire savoir le pouvoir, de croire savoir la communication. Donc du coup, ce collectif artistique, je l'ai, oui, baptisé Parti Poétique parce que, ce faisant, il ne se nomme pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, mais en même temps, il s'agit de choses essentielles. C'est-à-dire que la poésie, sans dire qu'elle en est, à un moment, elle est essentielle dans nos vies, je crois. Elle se glisse à des endroits où c'est ce qui rend les choses plus agréables que l'agréable, quoi. Et quand on a le sentiment que, à la pensée de Filiou, l'art est ce qui rend la ville plus intéressante que l'art, on est pour le coup sur quelque chose qui amplifie un peu le quotidien et qui est une sorte de terrain, voilà, de recherche, qui ne s'arrête pas à des limites particulières, qui considère que la meilleure façon de s'y prendre, c'est d'être du côté des arts plastiques, et puis, pour ce qui me concerne aujourd'hui, d'articuler aussi avec la question de l'alimentation.
Bon, en même temps, vous avez un peu la tête dans les nuages, puisque vous récoltez le ciel, mais vous avez aussi les pieds ancrés sur la terre, vous avez ouvert un centre de recherche et d'expérimentation, à la fois artistique et environnemental, avec votre Parti Poétique, qui s'intitule « Zone sensible à Saint-Denis, Louis Darnay ».
Lorsqu'on parle de zone sensible régulièrement, et que c'est un journaliste qui en parle, on a le sentiment qu'une zone sensible est une zone de risque et de danger. Alors qu'a priori, une zone sensible est une zone plutôt à caresser, une zone de sens et de sensibilité. Donc, la banlieue est beaucoup ça pour moi, une zone de sens et de sensibilité. En fait, zone sensible, c'est le résultat d'un combat pour nous, aussi d'un combat porté par la ville de Saint-Denis, qui, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, la plaine des Vertus au nord de Paris nourrissait les Parisiens depuis le 19e siècle. Robertvilliers, Saint-Denis, c'était une plaine légumière, de maraîchers. Il y avait 500 maraîchers au 19e siècle qui nourrissaient les Parisiens. Et puis la pression foncière a été telle que, évidemment, ces terres miraculeuses valaient beaucoup plus cher lorsqu'on y construisait un immeuble que lorsqu'on y faisait des choux. Et dans les années 80, la ville de Saint-Denis a protégé cette exploitation dans cette bienveillance communiste. Et puis depuis donc 83 jusqu'à aujourd'hui, cette ferme est restée une ferme. Et en 2016, l'exploitant a décidé à 76 ans de prendre sa retraite. La ville a lancé un concours et on a fait une proposition de reprise de cette ferme sur une articulation nature, culture, nourriture. Ça veut dire qu'en gros, ce qui est important pour nous au titre du patrimoine, c'est bien évidemment de garder cette ferme qui finalement est devenue la dernière ferme aux portes de Paris, aussi la première. Mais c'est la dernière ferme du 19e siècle encore en activité aux portes de Paris. Ça veut dire que le Parti Poétique a recruté un chef de culture, un chef jardinier. Ça veut dire qu'on maintient cette ferme en permaculture. Pour ce qui nous concerne, nous, on est sur un hectare et notre idée, c'est d'en faire un centre de production d'art et de nourriture.
Nature, culture et nourriture, voilà qui sont trois termes rassemblés aussi cet après-midi à la fête de l'UMA, Olivier Darnay, où vous allez vous rendre pour proposer un banquet des humanités avant votre performance artistique de Guise demain. Le banquet des humanités, toujours cette idée de foyer d'énergie, de collectivité mise ensemble, d'esprit de ruche. C'est quoi ce banquet des humanités?
C'est un titre que j'ai proposé à Paul Masson, rédactrice en chef de l'Humanité, qui était à l'initiative de ce banquet. C'est en gros quelque chose qui nous permet d'abord, nous, pour ce qui nous concerne, simplement de produire nos légumes et d'inviter les légumes de zones sensibles auprès de 11 chefs qui vont réaliser suffisamment de plats pour faire un banquet pour 400 personnes.
400 personnes?
Oui, c'est deux services de 200 couverts ce soir, 20h et je crois 22h. C'est tristement complet, mais ça veut dire en gros c'est des valeurs et des combats. Moi, j'ai le sentiment, comme d'autres, et puis comme Paul Masson, que notre alimentation est un fait culturel majeur. Et que on peut
à
pas.
À qui le dites-vous?
Non, mais. Et que l'on a, du coup, sur ces sujets-là, on n'est pas à égalité. Et je le vois aussi sur un territoire comme Saint-Denis, où les habitants autour de la ferme n'arrivent pas à considérer le légume bio comme une priorité, parce qu'ils ont bien d'autres problèmes à régler avant d'accéder à un légume bio. On est sur un territoire, d'ailleurs, où on a le plus de diabète en France. Enfin, la question de la malbouffe, elle est bien posée dans ces quartiers-là. Et donc un des enjeux éminemment politiques du coup posé par le banquet des humanités, c'est pas seulement celui du partage, c'est aussi celui des valeurs, des combats sur c'est pas seulement manger mieux, c'est manger mieux aussi économiquement, politiquement et écologiquement. Voilà, c'est avoir une conscience globale de ce que l'on met dans nos assiettes par rapport à ce qui existe autour de nous sur la planète.
De l'art à l'alimentation en passant par les abeilles. Donc merci beaucoup à vous Olivier Darnay. Récolter le ciel, c'est la performance qui aura lieu demain à 15h visiteurs au Familistère de Guise dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Rendez-vous sur le site des Journées du patrimoine pour avoir toutes les informations. On va se quitter en musique. On a choisi de vous faire entendre un extrait du dernier album de Paul McCartney, Egypt Stations. La chanson s'appelle Happy With You. Peut-être parce que vous nous avez donné le sourire en vous entendant ce matin. On écoute Paul McCartney.
I sat around all day. I used to get stoned. I like to get wasted. But these days I don't, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Around angry, I used to feel bad, but nowadays my day don't have to be sad, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do.